OK, bonjour tout le monde. Excusez-nous pour le petit retard. Si vous avez besoin des notes, vous pouvez les prendre sur la petite table dans l'entrée. On est dans le cours La Bible, livre humain ou divin, leçon 4. Vous trouvez les notes de cours sur le site web, les notes PDF, mais aussi les fichiers audio, d'accord? Alors, je m'appelle Yannick Étier. Si c'est la première fois que vous êtes dans le cours, je vous souhaite la bienvenue. On va aller ensemble dans un mot de prière avant de commencer. Bien, Père éternel, je veux te remercier pour ce temps qu'on passe ensemble à étudier ta parole ce matin, à voir, Seigneur, ce que ta parole nous dit sur elle-même, comment elle se présente, l'autorité, Seigneur, qu'elle a, et l'attitude que nous devons avoir envers cette sainte, cette divine révélation, Seigneur. On te prie de fortifier notre foi. On te prie, Père, que dans ce cours, tout ce qu'on en retire nous inspire, nous donne envie d'aller s'agenouiller, Seigneur, devant ta parole pour méditer, plonger les regards dans tes saintes Écritures et en recevoir, Seigneur, ce que toi, tu veux nous enseigner. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 17. Fait que c'est près, j'ai une petite toux. La semaine dernière, on a commencé à regarder ensemble les attributs de la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire simplement, lorsqu'on parle des attributs de Dieu, en général, on peut figurer assez simplement ce que ça veut dire, mais lorsqu'on parle des attributs de la parole de Dieu, de quoi on parle? Quelqu'un qui peut juste nous rafraîchir la mémoire un petit peu, Louise. Oui. La suffisance. La clarté. La clarté. Mais qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on parle des attributs de la parole de Dieu? Sans être spécifique sur un attribut, de quoi on parle? Non? Pardon? La vérité de la parole. Lorsqu'on parle des attributs de la parole de Dieu, on parle des qualités de la parole de Dieu. D'accord? Un attribut, c'est une qualité. Alors, quelles sont les qualités de la parole de Dieu? La semaine dernière, on a parlé de la suffisance de la parole de Dieu, de la clarté de la parole de Dieu. Ce matin, on parle ensemble du fait qu'elle est finale, que la parole de Dieu, c'est l'autorité finale. Elle doit avoir le dernier mot si elle est la parole de Dieu. D'accord? Et comme j'ai mentionné à plusieurs reprises dans le cours, à la limite, l'argument qu'on va faire ce matin peut sembler circulaire. D'accord? La Bible est l'autorité finale parce que la Bible dit qu'elle est l'autorité finale. C'est assez circulaire comme raisonnement, n'est-ce pas? Je suis vivant parce que je suis vivant. Ouais, OK, c'est beau. Mais encore, qu'est-ce qui nous dit que tu es vivant? D'accord? Alors, jusqu'à présent dans le cours, on n'est pas en train de faire la défense de la parole de Dieu, on est en train d'examiner ce que la Bible dit sur elle-même, ce qu'elle affirme, d'accord? Et qui devrait, en principe, être notre vision comme chrétien. Si on est chrétien, c'est parce qu'on croit que la Bible est la parole de Dieu, hein? On est des gens du livre de la Bible. Alors, voici comment les chrétiens devraient voir la Bible. Et puis dans la deuxième partie du cours, comme je le mentionne depuis le début, on va aller dans des questions un peu plus de défense de la Bible. Ça va? Lorsqu'on arrive dans le livre des Actes, on a vraiment un beau passage pour nous aider à voir qu'est-ce que ça veut dire reconnaître que la parole de Dieu est l'autorité finale. Parce que dans ce passage-là, on trouve deux groupes d'individus qui, a priori, sont dans la même gang. Ce sont tous des croyants. Ce sont tous des Juifs, tous des croyants dans l'Ancien Testament. Si vous aviez demandé aux Juifs de Thessalonique et puis aux Juifs de Bérée, donc deux villes, si vous leur aviez demandé, pour vous, là, est-ce que l'Ancien Testament, la loi et les prophètes, tout ça, les livres poétiques, est-ce que c'est la parole de Dieu? Tout le monde aurait dit oui, c'est évident. Mais pourtant, on va voir très clairement que les deux groupes d'individus ne considèrent pas la Bible de la même manière. Ils n'accordent pas à la Bible la même autorité. J'ai trouvé ça intéressant comme approche de la part de Kevin DeYoung d'aller le soulever avec des gens, tous des personnes qui se disent croyantes, d'accord? Notre premier réflexe, ça va être de dire, bien, il y a ceux qui croient en Dieu, puis qui croient, admettons, dans la Bible, qui se réclament du christianisme, puis il y a ceux qui vont être plutôt athées ou agnostiques, ou qui vont dire non, moi je crois pas que Dieu a parlé à travers la Bible. Et il y a plus de nuances que ça. Il y a encore tous ceux qui disent que Dieu a parlé à travers la Bible, mais, est-ce qu'il y a un mais à ajouter après, ou est-ce que Dieu a parlé à travers la Bible? Point. D'accord? Et donc, c'est vraiment un bel endroit pour aller le voir ensemble. Dans Actes 17, je vais juste aller vers quelques passages. Donc, Paul arrive à Thessalonique. Il va prendre la même approche à Thessalonique puis à Bérée. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive dans une ville, s'en va vers les Juifs comme point de départ pour pouvoir annoncer le salut en Jésus-Christ, le proclame premièrement aux Juifs, mais non seulement il va atteindre des Juifs en faisant cela, mais il va y avoir déjà des sympathisants, des gens qui sont attirés par le Dieu du judaïsme, le Dieu monothéiste. Certains d'entre eux même se sont convertis au judaïsme, même s'ils ne sont pas d'origine juive, d'accord? Et donc, il va aller vers eux, et puis il rouvre les Écritures. Puis à partir des Écritures, il commence à parler de Jésus-Christ. Donc, au Acte 17, les premiers versets, Paul et Silas passant par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. C'est toujours ça qu'il faisait, c'était toujours la même approche. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dans l'Ancien Testament. On est quand même dans une synagogue juive, n'est-ce pas? On est avec des Juifs, on est le jour du sabbat. Qu'est-ce qu'on fait dans une synagogue juive? On ouvre les Saintes Écritures, c'est ça qu'on fait. On lit l'Ancien Testament. Alors, en principe, Paul est vraiment en terrain super solide. Il rouvre avec eux les Écritures, puis il dit, regardez, on va commencer par regarder ensemble le Messie. Concept présent dans l'Ancien Testament, c'est qui le Messie? Il y a des choses que j'ai saisies, Dieu m'a aidé à comprendre des choses. Je vais vous montrer qui est ce Messie-là. Puis il commence à démêler des cartes. Il dit finalement, le Messie, c'est le Messie souffrant. C'est pas juste le Messie régnant. C'est pas juste un roi libérateur qui vient. Il va libérer à travers sa souffrance. Il commence à aller dans les passages prophétiques qui nous aident à voir ça. Et puis finalement, il leur dit, ce Messie-là est venu, c'est Jésus. C'est lui qui a été crucifié. D'accord? Ensemble, il va prendre la même approche à Bérée. Il va prendre la même approche à Bérée. Lorsqu'on va au verset 10, « Aussitôt les frères firent partir de nuit, Paul et Silas, pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. » Voyez-vous, il prend encore la même approche, toujours la même chose. Maintenant, je reviens un petit peu en arrière à Thessalonique. Verset 4, « Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul » et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Donc, Luc est en train de souligner, l'auteur du livre des Actes, est en train de souligner le fait que beaucoup des non-juifs d'origine, d'accord, les Grecs, les païens, ont cru, quelques-uns des Juifs ont cru, mais peu d'entre eux, en fin de compte. Parce qu'il va opposer. Il a dit, quelques-uns d'entre eux furent persuadés, blablabla. Mais au verset 5, « Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquant des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. » Et puis, finalement, ce que Luc est en train de nous dire, c'est que, voyant le succès de Paul, ces Juifs-là, jaloux de son succès, du fait qu'il était en train de, finalement, d'influencer, de devenir la vedette de la synagogue, si on peut dire, jaloux de cela, et tout de suite, ils s'en vont vers le mensonge, ils commencent à manipuler, ils rentrent dans des games politiques. Alors, revenons à nos notes ensemble. Dans ce passage du livre des Actes des apôtres, nous pouvons observer deux attitudes fondamentalement différentes à l'égard de la Bible, de la part d'individus qui se disaient tous croyants. Je ne vais pas répéter là, ce qu'on vient de mentionner, je vais au paragraphe suivant. Dans ces deux situations, Paul annonçait le message de l'Évangile à des Juifs en s'appuyant sur les Écritures. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que les Juifs de Thessalonique étaient jaloux, ils étaient politiques, d'accord? Tout de suite, ils commencent à jouer, à manigancer, à manipuler pour pouvoir arriver à leur fin, et ne reconnaissant pas l'autorité de la parole de Dieu en matière de foi. Qu'est-ce que les Juifs de Thessalonique auraient dû avoir comme réflexe si vraiment la parole de Dieu avait été la parole de Dieu à leurs yeux? Ça aurait dû être quoi leur réflexe? comme ceux de Béré, c'est quoi? Tu t'en vas dans la parole. Donc, je vous pose une question. Quand vous avez un dilemme moral, un dilemme éthique, un défi devant vous, c'est quoi votre réflexe? Vous appelez votre chum pour qu'il vous donne des conseils? Trouvez un bon livre? Trouvez des solutions? Ou vous avez trouvé le bon livre? Puis vous vous tournez vers lui? Difficultés, relations de couple, éducation des enfants, gestion des finances, orientation, tension, relations. Où est-ce que vous vous tournez pour trouver des réponses? Dans la Bible? Ou est-ce que vous dites, « Ouais, j'ai déjà entendu 48 sermons là-dessus, ça n'a rien changé, fait qu'on va aller trouver un bon livre de psycho, il va m'aider à régler mes problèmes. » Juste une question comme ça. Les Juifs de Béré ont manifesté une plus grande intégrité en acceptant d'écouter les enseignements de Paul pour les évaluer à la lumière de l'Ancien Testament. L'intérêt pour nous d'aller vers ce passage-là pour adresser cette question-là de l'autorité finale, c'est qu'on voit avec les Juifs de Thessalonique qu'il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles on ne se tourne pas vers les Écritures. Il y a des gens qui ne se tournent pas vers la parole de Dieu parce qu'ils ont des questions difficiles, ils ont des questions complexes sur la validité des Écritures. D'accord? Et c'est ça qui fait qu'ils sont sceptiques par rapport à la parole de Dieu. C'est vraiment important d'être à l'écoute de leurs questions, puis c'est important de trouver les réponses à leurs questions parce que c'est des bonnes questions. Mais des fois aussi, au fur et à mesure que tu avances dans la conversation, tu te rends compte que c'est peut-être pas ça le vrai problème. Peut-être que le problème, c'est que l'éthique qui est présentée dans la Bible, la manière que la Bible trace la ligne entre le bien et le mal, ça les intéresse pas vraiment non plus, tu sais. Puis si jamais ils devaient croire que la Bible est la parole de Dieu, ça impliquerait beaucoup de choses dans leur vie. Donc c'est peut-être ça l'enjeu. Peut-être qu'il y a d'autres enjeux aussi, d'accord? Mais il peut y avoir plusieurs motifs, plusieurs raisons qui vont m'amener à ne pas reconnaître la Bible comme autorité finale dans ma vie. Les Juifs, je m'en ai dit les chrétiens, les Juifs de Béré, qui ne connaissaient pas encore Christ, étaient tellement convaincus que la Bible est la parole de Dieu qu'ils étaient prêts à être profondément bouleversés dans leurs convictions spirituelles, dans leurs croyances. Est-ce que vous me suivez? Ces gens-là n'attendaient probablement pas un Messie souffrant. Vous comprenez? Vous savez ce que ça veut dire pour un Juif, quelqu'un qui se fait pendre au bois, là. D'accord? C'est un scandale. Et là, Paul est en train de leur dire, attendez un petit peu, peut-être que le Messie qu'on attend depuis des siècles, peut-être que Dieu l'a maudit sur la croix. On est vraiment en train de brasser leur croyance, là, en profondeur. Ça prend énormément d'intégrité. J'ai souvent dit à des gens à qui je parlais du Seigneur, si jamais tu peux me démontrer que je suis dans l'erreur, je vais être le plus heureux des hommes. Parce que moi, ce que je cherche, c'est la vérité. Ce n'est pas être baptiste ou être chrétien ou quoi que ce soit. J'ai trouvé la vérité en Jésus-Christ. J'en suis convaincu. Mais si j'étais dans l'erreur, montre-moi que je suis dans l'erreur. Une citation de Aldous Huxley. Un drôle de monsieur, vous ferez une recherche sur Wikipédia pour avoir un petit peu son histoire. Mais un gars intéressant quand même. Intéressant puis en même temps dangereux, là. Donc, il a été une inspiration très forte pour le mouvement hippie. Puis après ça, la naissance du Nouvel Âge, le New Age, qui est maintenant plus intégré dans toutes sortes d'autres pensées. Puis on le définit moins précisément. Mais voici ce qu'il a écrit. Pour ma part, et sans aucun doute, pour la plupart de mes contemporains, la philosophie de l'absurde fut un instrument de libération essentiel qui en revient à dire tout simplement que la vie n'a pas de sens. Il n'y a pas un auteur de la vie qui donne un sens à notre vie. On est des êtres qui naissons, vivons, mourons, et on n'a pas à chercher un sens profond à la vie. Finalement, on est mieux juste de vivre puis de jouir de la vie. Il n'y a pas de sens à cette vie-là. Fut un instrument de libération essentielle. La libération que nous désirions était tout à la fois la libération d'un système politique et économique et une libération d'un certain système de moralité. Nous nous objections à la moralité parce qu'elle interférait avec notre liberté sexuelle. Nous nous sommes objectés au système politique et économique parce qu'ils étaient injustes. Parce qu'il était injuste, une faute. C'est assez clair? Son problème avec le système qu'on lui avait enseigné sur le plan de la moralité, c'est qu'il l'empêchait de vivre ce qu'il voulait vivre sur le plan sexuel, dans le domaine de la sexualité. Et donc, son objection était fondamentalement là. D'accord? Et donc, il y a des gens qui vont s'objecter à la parole de Dieu, qui ne vont pas reconnaître la parole de Dieu comme autorité finale, pour des motifs intellectuels parfois, parce qu'ils vont douter, ils vont être sceptiques par rapport à l'autorité des Saintes Écritures. Puis il faut trouver les réponses à ça, mais des fois, il y a toutes sortes d'autres motivations qui sont là aussi. Les Juifs de Thessalonique, comme le relève Kevin DeYoung, ne voyaient pas leurs propres contradictions, dans le fond. Et c'est pour ça que lorsque Paul arrive à Bérée, au verset 11, Luc va dire que ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures. Luc ne dit pas ici que les Juifs de Bérée étaient plus crédules. C'est pas ça qu'il dit. Il dit qu'ils étaient plus intègres, plus nobles. Ils étaient prêts à se remettre en question. À partir du moment où tu dis que la Bible est la parole de Dieu, c'est l'autorité finale, si quelqu'un dit « Non, non, mais je te dis, c'est dans la Bible. » On va aller l'ouvrir, mon homme, si tu dis que c'est là. Peut-être que je suis à côté de mes feutres. D'accord? Et donc, les Juifs de Thessalonique manquaient d'intégrité dans leur démarche, dans leur raisonnement, et ne voyaient pas leur faux raisonnement. Et des fois, on va entendre des choses, par exemple, chez nos contemporains qui vont, on le disait à plusieurs reprises dans l'Église ici comme illustration, mais on va entendre quelque chose qui sonne à peu près comme ceci. Je ne peux pas prêter foi à une religion qui est fondée sur l'affirmation de certaines vérités. Parce que, sous-entendu, on n'a pas le droit d'affirmer que quelque chose est vrai. Mais quand je fais ça, là, je suis en train de faire une drôle d'affirmation. Hein? Fait que, si on parle de raisonnement circulaire, on est dans le trait circulaire ici. Là. D'accord? Quand je dis qu'il n'y en a pas de vérité, je viens de faire toute une proposition très, très forte. Et donc, rejeter le christianisme parce que le christianisme va dire Jésus est la vérité, ce n'est pas sur la base du fait que je dis que Jésus est la vérité et qu'il ne peut pas y avoir une seule vérité que je peux le rejeter. Je peux aller examiner cette proposition-là pour savoir si Jésus est la vérité. Ça, je pourrais faire ça. Mais juste dire non, il n'y en a pas de vérité, mais j'ai moi-même d'être aussi intransigeant dans ma déclaration. Voyez-vous, donc, ils ne voient pas leur propre contradiction dans leur raisonnement. D'accord? C'est intéressant. Luc dit qu'on devrait associer ça aussi avec un manque d'intégrité, un manque de noblesse de cœur, de bien vouloir être fair play, comme on dit, d'accord, pour examiner toutes les affirmations. Ça va jusque-là? Ouais? Commence à avoir des points d'interrogation dans les yeux, c'est bon? OK. Chez les chrétiens de Bérée, on peut vraiment dire que la Bible avait le dernier mot, entier, complet. On serait tenté de croire que chez tous ceux qui se réclament du christianisme, la Bible occupe la même autorité, à la même place. C'est loin d'être le cas, d'accord? Des fois, je jase avec des gens, puis on est divisé dans nos cœurs parce qu'on se dit « Ouais, mais il y a tellement peu de gens qui se réclament du christianisme qu'on ne va pas commencer à être divisé entre nous, ce n'est pas un bon témoignage. » Puis on a besoin de rallier les forces, tu sais, puis être ensemble pour pouvoir défendre le nom de Jésus-Christ puis proclamer le nom de Jésus-Christ. Le hic, si tu ne vas pas un petit peu plus loin dans le questionnement, c'est que ça se peut qu'on ne parle pas du même Jésus, même si on l'appelle tous les deux Jésus. D'accord? Là, je suis un peu gros là, dans ce que je dis, mais ce n'est pas faux du tout ce que je suis en train de dire. Là. Donc, je ne peux pas avoir une approche simpliste et présumer que tous ceux qui se réclament du christianisme ont la même vision de la Bible. Puis on va juste donner un exemple assez simple. Puis je sais que pour une certaine génération, lorsqu'on revient sur le catholicisme, tout ça, pour vous, c'est des évidences parce que vous avez connu vraiment le catholicisme. Pour les jeunes générations, ce n'est pas le cas du tout. D'accord? Donc, je pense que c'est pertinent de regarder ça, même si on est au Québec, puis on a l'impression qu'on se souvient. On ne se souvient peut-être pas tant que ça, dans le fond. Donc, trois mouvements avec trois visions différentes de l'autorité de la parole de Dieu. Et dans les trois cas, on a des citations pour illustrer un mouvement. Peter Kreeft, catholique romain. Soyez bien attentifs, là, c'est un peu compliqué, là, mais on va l'expliquer tout de suite après. L'Église nous donne sa tradition comme une mère habille un enfant avec les vêtements de ses grands frères ou grandes sœurs, dans le sens que c'est transmis de génération en génération. Mais contrairement à nos vêtements terrestres, ceux-ci sont indestructibles. C'est énorme là, comme affirmation. Parce qu'ils ne sont pas faits de coton ou de laine, mais de vérité. Elle a été inventée par Dieu, non par l'homme, la tradition. La tradition sacrée se distingue de toute tradition humaine. La tradition sacrée forme une part du dépôt de la foi avec les Saintes Écritures. Elle fait partie des informations de l'Église données par son Seigneur. D'accord? Alors, si vous êtes un peu familier avec le Nouveau Testament, des références comme le dépôt de la foi, hein, Paul dit, je vous ai transmis le bon dépôt, assure-toi maintenant de transmettre le bon dépôt, le dépôt de la foi, qui est finalement l'ensemble des enseignements essentiels du christianisme. Peter Kreeft ici met la tradition sur le même plan. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire c'est quoi la tradition de l'Église catholique? Non, les sacrements, c'est une pratique. Ça fait partie, là, mais oui. Les bulles papales, alors lorsque le pape publie une bulle papale, cette affirmation-là, cette déclaration-là, a même autorité que les Saintes Écritures, dans la vision catholique romaine de la chose, d'accord? Ce qui a été transmis à travers les conciles, à travers l'histoire de l'Église, mais dans le Nouveau Testament, on a un premier concile, le concile de Jérusalem, d'accord? On rassemble des gens, puis on se penche sur une question. On dit, OK, on a reçu ceci du Seigneur, maintenant, qu'est-ce que ça implique? Et c'est ça qui se passe à Jérusalem. Des conciles comme ça, il y en a eu plusieurs dans les premiers siècles, d'accord? Bon, mais dans la tradition, dans l'Église catholique, cette tradition-là, ce qui est sorti des cinq conciles, ça va avoir la même autorité que les Saintes Écritures. Le même poids d'autorité que les Saintes Écritures. Parce que Peter Kreeft nous dit ici que cette tradition-là est indestructible. Elle n'est pas faite de coton ou de laine, donc elle n'est pas faite par des pécheurs. Elle a été inspirée par Dieu à quelque part. Elle est faite de vérité. Elle a été inventée par Dieu et non par l'homme. Donc, les Saintes Écritures n'ont pas le même poids. Puis lorsque je vais discuter avec quelqu'un, vous l'avez tous vécu, si vous avez parlé du Seigneur à quelques reprises avec des gens qui se sentent quand même confortables dans l'Église catholique, malgré les difficultés qu'il y a là, puis des choses qu'ils peuvent eux-mêmes ne pas aimer. Vous discutez avec eux, pendant un certain temps. Puis là, à un moment donné, vous voyez bien que ce que vous avez exposé à partir de la Bible, à partir de versets bibliques, c'est plein de bon sens, c'est toute logique. Mais à la fin, la réponse, c'est « Oh, mais je ne changerai pas d'Église, là. » Je ne changerai pas d'église. C'est les Juifs de Thessalonique. Vous comprenez? Oui. C'est une bonne question. Je n'ai pas lu. La question, c'est par exemple par rapport aux croisades, les guerres saintes qui ont été faites au nom de l'Évangile ou au nom de la foi. C'est une bonne question. Je n'ai pas lu dernièrement. D'accord? Évidemment, on vit à une époque où ce genre de contradiction-là, à un certain moment donné, ça devient intenable, indéfendable. Parce que ça, c'est un non-sens, là. J'ai pas lu dans les dernières années s'ils rejettent ça ou s'ils défendent encore comme quelque chose de juste, de justifiable. Très bonne question. Oui? C'est-à-dire qu'en général, une bonne question, est-ce qu'ils vont se contredire l'histoire? En général, ils vont plutôt essayer de développer que de contredire. C'est ça qu'ils vont essayer de faire. Donc, ils vont trouver une manière de, excusez-moi, là, en bon français, ils vont spinner ça pour que ça ne semble pas être une contradiction, mais plutôt une évolution dans la compréhension ou dans la pratique ou des choses comme ça. Maintenant, si vous avez un... C'est ça notre gros dilemme. Hein? Quand je vous disais tantôt là, la difficulté de vouloir tous se rassembler sous la bannière de Jésus-Christ sans aller voir qu'est-ce que ça veut dire, c'est qui ce Jésus-là selon ces gens-là, c'est quoi la Bible. Une difficulté qu'on a, c'est que lorsqu'on tombe sur un pape comme le pape précédent, Ratzinger, qui était plus conservateur, même sur le plan théologique. Mais là, tu le vois faire certaines déclarations, tu te dis, yeah, conforme avec les Écritures. Son motif, c'est peut-être pas les Écritures. C'est peut-être la tradition. Là, tu arrives avec un pape qui est plus près des gens, probablement un petit peu plus libéral, le pape actuel, un petit peu plus libéral, pas énormément, mais un peu. Hop, là, tu dis, bon, OK. Fait que là, si le prochain pape est conservateur, ça ne veut pas dire qu'il est attaché à la Bible, conservateur. Là, hop, on sent plus d'affinité. T'sais. On dit, OK, il y a des affaires qui ne sont pas claires, qui ne sont pas correctes, puis il y a des mensonges, mais il est quand même plus près de nous. Et à ce moment-là, ben, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est un dilemme. Là. Est-ce qu'on ne doit pas comme accepter d'être plus près d'eux? Mais il faut aller voir c'est quoi que ça veut dire, ça. D'accord? Alors, dans l'Église catholique, la tradition a le même poids. Et malheureusement, c'est pas juste la théologie, cette affaire-là. Vous allez dire, oui, mais les catholiques là, qui croient dans la tradition aujourd'hui, ils ne connaissent même plus leur tradition. Certains qui connaissent la tradition. Ils ne connaissent pas la théologie qu'il y a derrière, mais toutes leurs pratiques sont là. Fait que tu les amènes, puis le rituel qu'ils vont poser. Pourquoi vous pensez que les cathédrales sont aussi extraordinaires? Écoutez, moi personnellement, là, je suis pas un gars très superstitieux. Je rentre dans une belle cathédrale, puis ça m'en prendrait pas gros pour me dire wow, Dieu est plus ici qu'ailleurs, tu sais, à cause de la beauté, d'accord? Parce que j'aime ce qui est beau. Mais pourquoi vous pensez que c'est fait, ça? C'est pour renforcer toute cette notion-là que la tradition, c'est l'autorité. Et donc, le rituel traditionnel qu'il pose devient plus important que ce que la parole de Dieu affirme. Fait que pour eux, de dire « je vais me rapprocher de Dieu sans passer par le rituel », le feeling n'est même pas là que je me rapproche de Dieu. Oui, mais ce que tu viens de poser comme geste va en flagrante contradiction avec la parole de Dieu. Je le sens pas de même. Je le sens pas comme ça. Et donc, je suis pas en train de dire ici que l'Église catholique enseigne toutes des choses fausses. Il y a des choses où ils sont très solides sur la personne de Christ à bien des égards. Mais l'œuvre de Christ, l'œuvre de salut, l'autorité des Saintes Écritures, non, on n'est pas à la même place. Théologie protestante, libérale, là, on va mettre beaucoup de monde là-dedans. Puis beaucoup d'évangéliques aussi, maintenant, vont être emportés dans ce mouvement-là. Je vais le lire, puis je vais l'expliquer brièvement après. L'idée fondamentale de la théologie libérale est que toute affirmation de la vérité, en matière de théologie, comme dans les autres disciplines, okay? Donc comme en physique, en biologie, n'importe quoi, doit être fondée sur la raison et l'expérience, ce que je comprends qui est raisonnable et que je peux démontrer par l'expérience, non sur une autorité extérieure. Les écrits chrétiens peuvent être reconnus comme spirituellement autoritaires dans le domaine de l'expérience chrétienne, mais ces paroles ne peuvent déterminer ou établir la vérité en matière de fait. D'accord? Donc, la Bible, lorsqu'elle déclare quelque chose, n'est pas nécessairement factuelle. Elle n'a pas l'autorité pour dire que quelque chose est un fait. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Si tu ne peux pas le prouver par la raison puis l'expérience, ce n'est pas factuel. Ça va avoir autorité en termes d'expérience chrétienne. On s'en va vers des théologiens comme Karl Barth puis d'autres. Là. Mais donc, il y a quelque chose dans la résurrection de Jésus, c'est certain, qui a matière d'autorité en termes d'expérience spirituelle, d'expérience chrétienne. Je suis appelé à vivre intérieurement une résurrection puisque la Bible me dit que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Ta vie ne va pas bien parce qu'il faut que tu ressuscites. Et où je peux partir là, dans toutes les directions, d'accord? Mais de là à affirmer que Jésus est ressuscité d'entre les morts parce que la Bible le dit, non, la théologie doit être soumise, comme toutes les disciplines, à la raison et à l'expérience. Ça, c'est la théologie libérale. Donc, quand vous avez la brillante idée à l'université de dire, « Ah, j'ai un cours complémentaire, je vais aller prendre un cours de théologie », à 99,9,9,9,9%, celui qui va vous enseigner se situe exactement là. C'est ça qu'il croit, d'accord? Maintenant, si ça vous tente d'aller aiguiser vos lames, c'est bon, mais prévoyez du temps pour des lectures complémentaires de grâce. Venez nous voir. On va vous donner un cours de 3 crédits où tu vas aller te faire endoctriner pendant toute la session. Je vais te donner au moins 1 000-1 500 pages de lecture à faire, d'accord? Au moins, juste pour être fair play, encore une fois. Ça va? Parce qu'on est quand même à l'université. Le lieu du pouvoir et de la vérité, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Il va se passer beaucoup de choses dans votre tête, beaucoup de questions. Et si vous parlez avec un théologien catholique, En fait, la majorité des théologiens catholiques que vous allez rencontrer se situent là, dans la théologie libérale. Ils ne sont pas nécessairement au niveau de la théologie catholique romaine. Si vous jasez avec un prêtre, ça va dépendre. D'accord? Ceux qui ont jasé un petit peu avec ce monde-là, là, vous avez plein de références dans votre tête, vous savez, vous voyez les nuances. D'accord? Mais souvent, un théologien catholique, c'est exactement dans toute la mouvance de la théologie libérale. On se tourne maintenant vers la confession de foi de Westminster, une confession de foi très classique, protestante, mais avant que le libéralisme vienne souffler son vent. Le juge suprême par lequel les controverses de la religion, les décrets des conciles, les opinions des anciens écrivains, les doctrines des hommes et des esprits doivent être examinés et qui peut établir un jugement, ne doit être aucun autre que l'Esprit-Saint parlant par les Écritures. Donc, qui est le juge par lequel on va établir ce qui est vrai et ce qui est faux en matière de religion, les décrets des conciles, les opinions des anciens, les doctrines des hommes? Ça va être quoi? Ça va être les Saintes Écritures. L'Esprit-Saint qui parle à travers les Saintes Écritures. Quel que soit le domaine que j'étudie, il y a quelque chose qui fait autorité. Que ce soit en théologie, que ce soit en sciences, que ce soit n'importe quoi, n'importe où, ça n'existe pas un domaine d'étude, une discipline où il n'y a rien qui fait figure d'autorité. D'accord? Lorsque je comprends ça, je dois me poser la question, qu'est-ce qui fait foi d'autorité? Dans la pensée libérale, c'est ta raison puis ton expérience, ce que tu peux démontrer. D'accord? Ce que tu peux répéter comme expérience. Ça, c'est la théologie libérale. Postmodernisme, il dit non, ça ne se peut pas, même si on ne peut pas prouver la vérité. Il n'y en a pas de vérité démontrable. D'accord? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions là-dessus? Avant que je passe à autre chose. Est-ce que je suis comme trop loin? Non? Ça va? C'est assez concret quand même. Je sais qu'il y en a peut-être quelques-uns qui vont dire, boy, je ne pensais pas que ça allait être drabe de même. Il y en a d'autres qui disent, j'aimerais ça qu'il y ait un petit peu plus loin. Vous voyez, c'est un petit peu là que... C'est un petit peu mon dilemme à moi. Ça va? Dans tous les domaines de la connaissance humaine, une autorité ou une autre est reconnue, qu'il s'agisse de nos parents, de la communauté, des sondages, des impressions d'un livre, de la raison, des expériences. Nous avons toujours une référence quelconque qui fasse office d'autorité. Pour les chrétiens, si j'apprends à comprendre c'est quoi un chrétien juste à partir de la Bible, c'est la Bible qui doit être autoritaire. Et ce n'est pas parce que vous jasez avec quelqu'un qui vous parle de Jésus, son amour pour Jésus, puis combien il est content que Jésus soit mort pour lui, que la Bible fait figure d'autorité. Vous jasez. À un moment donné, il y a quelque chose. Ah, OK. On s'en va dans une controverse. Ce n'est pas parce que quelqu'un va dans une église évangélique que la parole de Dieu fait foi d'autorité. Ce n'est pas parce que quelqu'un va à l'église de l'espoir que... les Écritures ont foi d'autorité. C'est pas parce que quelqu'un croit ça même que de manière pratique, c'est ça qu'il expérimente. Ça va mal dans ton couple? Où est-ce que tu cherches des réponses pour commencer? Oui? Avec quelqu'un qui va pas croire ça, admettons, c'est ça que tu veux dire? Moi, ouais, discuter des opinions. Mais, OK. Ça dépend, je veux dire... Ma priorité numéro un, notre priorité numéro un, c'est toujours d'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Hein? Lorsque Paul est arrivé, il dit, j'ai cherché à connaître au milieu de vous une seule chose, Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Donc ça, c'est mon accent numéro un. Qu'est-ce qui fait que des fois, je vais aller faire des discussions sur l'autorité des Écritures? Ben, c'est que je ne pourrais jamais vraiment me rendre à Jésus-Christ si la Bible ne fait pas autorité. D'accord? Donc ça se peut que j'aille là. Fait que dans la mesure où quelqu'un est clairement chrétien, il a vraiment saisi que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui est mort sur la croix pour mes péchés, ressuscité d'entre les morts, placé sa foi en lui comme seul moyen de salut. Après ça, on est en train de faire des discussions. Si la personne avec qui jase, par exemple, là, des fois je jase avec des chrétiens évangéliques qui ne sont pas inhérentistes, ils croient que la Bible a des erreurs. Mais des fois, je vais jaser avec eux, puis on va se coltailler un peu pour pouvoir discuter de ça. Comment je vous dirais ça? Notre rôle à nous, c'est jamais de convaincre. C'est l'Esprit-Saint qui fait ce job-là. Okay? Donc, je suis toujours libre de dialoguer avec les gens sans rentrer dans un débat qui devient malin. D'accord? Puis je pense que plus souvent qu'autrement, lorsque ça devient juste de l'argumentation, à quelque part, c'est parce qu'à un moment donné, on a accroché, puis c'est notre orgueil qui est en train d'embarquer dans le game. Je n'ai pas besoin de me rendre là. Si ça devient juste de l'argumentation, regarde, on s'en reparle une autre fois. On s'en reparle une autre fois, c'est correct, je n'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Mais en même temps, je veux dire, tu es vraiment dans les doctrines essentielles. Là. Vous comprenez, si la Bible n'est pas vraiment la parole de Dieu, tôt ou tard, tu vas déraper. Tu ne peux pas t'en sortir. Fait que tout ce courant-là, le courant libéral, il a commencé avec des questions comme les miracles. Est-ce que des miracles, bon, ben, ils ont dit, regarde, la science affirme quelque chose. Si tu ne peux pas reproduire quelque chose, une expérience scientifique, tu ne peux pas le prouver, tu ne peux pas affirmer que c'est vrai. Fait qu'ils ont commencé là. Mais aujourd'hui, le mouvement libéral est rendu beaucoup plus loin. Donc, il y a toute la notion du rôle de l'homme et de la femme, la confusion totale, l'homosexualité intégrée, homosexuels prêtres qui sont eux-mêmes en train d'enseigner dans l'Église. Mais c'est parce que finalement, il n'y a plus d'autorité. Il n'y a plus d'autorité. Tout ça commence avec ta vision des Saintes Écritures. Une fois que les Saintes Écritures sont claires, comme j'ai dit, ça se peut que j'ai des dilemmes intérieurs. Parce que la Bible dit quelque chose, puis « wow, man, je ne suis pas tendance pantoute avec ce que je crois, moi. » Fait que ça se peut qu'intérieurement, je dise... La semaine dernière, je l'ai mentionné, ça se peut des fois, je dis « Seigneur, ça aurait été comme plus simple, tu sais, si ça, je n'avais pas à défendre ça. » Mais c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Fait que je prends le temps qu'il faut avec le Seigneur pour soumettre mon cœur à la parole de Dieu, puis on avance ensemble. Oui, Paul. Oui. Oui. Excellente question. La question de Paul, c'est si un chrétien lui partage une expérience personnelle, lui dit qu'il a vécu une expérience dans sa foi, tout ça, puis qu'il ne peut pas la prouver par les Écritures. D'accord? Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Bien, c'est une excellente illustration. Excellente illustration. Paul a affirmé qu'il avait été enlevé. D'accord? Paul a affirmé ça. Paul a affirmé que Jésus lui était apparu. Puis moi, Paul ne me l'a jamais prouvé, ça. Mais il l'a dit. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est dans la Bible. OK, ouais, c'est vrai, on est dans un raisonnement assez circulaire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si un chrétien vient me partager une expérience spirituelle qu'il a vécue, ce qui me préoccupe premièrement, c'est est-ce que ce que tu as expérimenté ou ce que tu en as reçu comme enseignement vient en contradiction avec les Écritures ou non? OK? Tu me dis qu'il y a un ange qui t'est apparu. Bon, oui, moi je vous le dis, là. Quand il y a des anges qui apparaissent à toutes les semaines à cette personne-là, il y a quand même une petite cloche, un petit quelque chose dans ma tête. Puis on en a toujours des gens comme ça qui ils attendent plus la voix du Seigneur en moyenne au bâton, même que tous les prophètes, d'accord? Il y a toujours un petit quelque chose, un petit doute là-dessus, OK? Mais donc, mon attitude générale à moi, tout simplement, ça va être de dire, écoute, mon frère, je respecte ton expérience. Si effectivement, il y avait quelque chose qui venait en contradiction avec la parole, oups, on va aller voir ensemble les Écritures. Alors, ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des discussions, des gens qui partaient d'ici. Parce qu'ils me disaient, regarde, c'est clair, je l'ai vécu, tu ne me diras pas que ce n'est pas vrai. Moi, je ne te dis rien pantoute, mon ami. Je te dis que la Bible te dit que ce n'est pas vrai. C'est tout, là. Personne ne s'en va. S'il n'y a pas de contradiction avec les Écritures, je vais avoir personnellement, respectueusement, je veux prêter foi à ce que mon frère me dit. Parce que je n'ai pas à présumer qu'il est menteur. Je n'ai pas à présumer que c'est faux ce qu'il a vécu. Si Dieu lui a donné pour lui, ben ça va être un petit peu comme ce que Paul dit, par exemple. Il dit à ceux qui parlaient en langue, il leur dit, ben si Dieu ne t'a pas donné un don pour traduire ce qui t'a été donné, je pense que c'est une bénédiction pour toi, celle-là. Fait que peut-être garde-la pour toi. Tu sais? Fait que quelqu'un qui va venir me voir, puis ça va être quelque chose comme ça. C'est fun que tu m'en parles, qu'est-ce que ça produit en toi, je vois les bons fruits que ça produit, c'est bien. Je respecte ça jusque-là. Mais après ça, je pense que c'est une bénédiction pour toi, puisque c'est toi seul qui l'as vécu. Les apôtres sur la montagne de la Transfiguration, c'était plus collectif, la patente. D'accord? Fait que c'est comme ça que je vais travailler dans ces cas-là. On avance. Il nous reste un petit pas long. Deux livres, deux autorités. J'ai commencé à en parler déjà dans les dernières semaines. C'est vraiment quelque chose de base pour ceux qui sont familiers avec l'inspiration des Écritures puis la révélation. Lorsqu'on parle de révélation, on parle généralement de deux révélations. La révélation générale à travers toute la nature et la révélation spéciale à travers les Écritures. D'accord? Cette question-là, elle a de l'air simple, ça a de l'air évident, pourtant c'est plus présent de nos discussions avec des gens qu'on peut le penser. Les Saintes Écritures sont très claires, Dieu se fait connaître à travers sa création. Tout l'argument des créationnistes qui appellent le Great Design, OK? Donc, les créationnistes qui vont dire, regarde, on a tout un argument, il y a un design derrière ça. J'en suis, là, d'accord? Je ne suis pas en train de m'opposer à ça. Mais l'argument, finalement, c'est un peu un argument de révélation générale. Tu étudies la nature, tu regardes tout ça, tu dis il y a une structure, c'est un non-sens de ne pas voir de structure là-dedans. Il y a un designer, il y a quelqu'un qui a conçu cet univers-là absolument extraordinaire. Donc, c'est la révélation générale dont on parle, d'accord? Ce n'est pas la révélation spéciale. La révélation spéciale, c'est la parole de Dieu. C'est le prophète que Dieu envoyait qui venait parler. D'accord? On a deux catégories. Puis c'est important... Dieu nous dit, je vous dirais le plus clair, c'est dans Romains, là, mais ailleurs aussi, Dieu nous dit clairement dans sa parole, dans les psaumes, il y a plusieurs références à ça, les cieux parlent de ta grandeur, parlent de ta gloire. C'est toujours cette idée que Dieu parle à travers la révélation générale. La conscience humaine, la beauté de la création, la structure de la création, l'esthétique dans la création, tout ça nous parle de Dieu, d'accord? Puis la révélation spéciale à travers les prophètes, Dieu parle aujourd'hui à travers Jésus-Christ, à travers ses Écritures. D'accord? Maintenant, une idée qui va venir, c'est que les gens vont dire, OK, donc s'il y a la révélation générale, puis il y a la révélation spéciale, Dieu parle toujours, c'est Dieu qui parle, on s'entend, puis Dieu ne peut jamais mentir. Donc, il n'y a jamais de contradiction entre la révélation générale et la révélation spéciale. En théorie, c'est vrai. D'accord? Factuellement, c'est certainement le cas. Mais là, donc, ils vont dire, bien, écoute, la science nous a appris, à partir de ta révélation générale, par exemple, que quelqu'un ne peut pas ressusciter d'entre les morts. C'est ça que la science nous apprend. Moi, je regarde le livre qui est l'ADN humain, puis tout ça, puis j'étudie ce livre-là, puis ce que ça me dit, c'est que la résurrection, ça ne se peut pas. Et donc, il ne peut pas y avoir de contradiction en Dieu, donc la résurrection, ça ne se peut pas. Fait que là, on arrive à des dilemmes comme chrétiens, parce que étudiant l'univers, l'être humain fait un certain nombre d'affirmations qui, au moins en apparence, ou au moins pour un temps, vont être en opposition avec ce que la Bible va affirmer. D'accord? Alors, c'est vrai pour un chrétien, on reconnaît qu'il y a la révélation générale et la révélation spéciale, mais rien n'est jamais aussi clair qu'à travers la révélation spéciale. Avec la révélation générale, je peux connaître beaucoup de choses sur Dieu, mais je ne connaîtrai jamais les choses aussi clairement qu'à travers la parole de Dieu. Et donc, comme chrétien, si je me trouve dans une situation où j'ai ce dilemme de dire, ouais, bon, ceux qui étudient la science affirment quelque chose qui va en contradiction, il semble, avec les Écritures, je vais décider personnellement de m'appuyer sur les Saintes Écritures, puis je vais laisser les siècles filer pour venir confirmer la parole de Dieu, comme Dieu le fait si souvent. D'accord? Ça va être mon attitude générale. Vous voyez que ça peut être près de certains de vos questionnements, certains de vos doutes des fois, d'accord? Je vais vous lire un article de foi tiré de la Confession belge. Vous pouvez trouver ça en passant, ces grandes confessions de foi-là, vous trouvez tout ça sur Internet très facilement, d'accord? C'est vraiment intéressant de les lire, ça place beaucoup de choses qu'on voit dans les cours bibliques, que ce soit Westminster, le catéchisme d'Edelberg, puis la Confession de foi belge. Nous le connaissons par deux moyens. Premièrement, par la création, conservation et gouvernement du monde universel, d'autant que c'est devant nos yeux comme un beau livre auquel toutes créatures, petites et grandes, servent de lettres pour nous faire contempler les choses invisibles de Dieu, savoir sa puissance éternelle et sa divinité, comme dit l'apôtre Saint Paul. Donc, il parle de la révélation générale. Toutes lesquelles choses sont suffisantes pour convaincre les hommes et les rendre inexcusables. Donc, sans la Bible, l'être humain, en observant l'univers, peut dire, il y a un designer, le bien et le mal existent, on n'est pas juste des rats sur la terre, j'ai une conscience, j'ai un sens éthique profond qui est là, ça me vient de quelqu'un, c'est pas logique de penser que ça vient de personne. Et donc, c'est suffisant pour que je sois reconnu, par exemple, dire que je vais adorer des idoles. Alors que je vois bien qu'il y a plus que la marmotte qui est devant moi, il y a plus que l'arbre qui est devant moi, il y a un designer, il y a un créateur derrière ça. Secondement, il se donne à connaître à nous plus manifestement et évidemment par sa sainte et divine parole, tout autant pleinement qu'il nous est de besoin en cette vie pour sa gloire et le salut des siens. C'est du vieux français, pardonnez-les. Donc j'ai besoin des saintes écritures pour véritablement connaître la gloire de Dieu et parvenir au salut. Connaître Jésus-Christ et entrer dans sa gloire. Dans les Écritures, deux exemples ici, puis on achève, de passages où on voit les deux idées dans le psaume 19, d'accord? Psaume 19, 2, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Révélation générale. Ça va? La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Alors, si je restais avec ces passages-là, bien les cieux, puis l'étendue des cieux, sont suffisants pour dire à l'homme qu'il est ignorant. D'accord? Les saintes Écritures sont nécessaires à l'homme pour qu'il devienne sage une fois qu'il a réalisé qu'il était ignorant. Fait que des fois, vous jasez avec des gens, puis à un moment donné, ils disent, « Aïe, aïe, je savais que je cherchais quelque chose. J'ai soif d'entendre ça, d'être éclairé comme ça depuis toujours. » Puis là, on va vers les Écritures, et là, ils trouvent la sagesse qu'ils ne trouvaient pas. La révélation générale a été suffisante pour qu'ils réalisent qu'ils ne sont pas sages, et qu'ils ont besoin de connaître plus personnellement, plus véritablement Dieu. Et par le fait que je dis que si j'ai à faire un choix difficile entre des affirmations scientifiques et ce que la Bible dit, je vais choisir de suivre des Écritures, je ne suis pas en train de dire que les chrétiens ne doivent pas se documenter sur la science. Au contraire, on doit lire, on doit être au courant, on doit connaître les enjeux scientifiques qui sont soulevés, on doit comprendre ces questions-là. Mais oui, j'ai la conviction profonde que la Bible est la parole de Dieu. Il y a des questions sur lesquelles je vais juste adopter une attitude plus humble, puis je vais dire, écoute, je comprends, je vais laisser le temps à Dieu de montrer qu'il a raison. Pour moi, j'ai fait mon choix, ça c'est clair pour moi. D'accord? Oui. Oui, c'est ça. Karine fait juste mentionner qu'en 20 ans, elle a vu la théorie de l'évolution, puis la manière qu'il la défend ou non, évoluer énormément. Mais c'est ça. C'est ça, c'est que, bon, t'arrives au cégep, t'arrives à l'université, il y a quelqu'un qui est là, c'est un professeur d'université, on t'a enseigné à l'église, il n'y a personne d'instruit. Puis là, t'arrives à l'université, là où il y a toute la connaissance, le siège de toute vérité, puis là, on t'affirme des affaires, bang, 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 pouf, là, t'es sur le dos. Mais ce que ça devrait faire en toi, c'est, ah, c'est intéressant, je vais commencer à lire. Je vais commencer à faire des recherches. Mathieu? Moi, je veux répéter, Mathieu Ferland mentionne que des fois, lorsqu'on est confronté avec des affirmations dites scientifiques, c'est puisque la science occupe énormément d'autorité, il y a un aura très puissant autour de la science. Dès que tu vas dire qu'une affirmation a été prouvée, une thèse a été prouvée scientifiquement, ouf, ça va être complètement déstabilisant pour des chrétiens, admettons. Mais lorsque tu creuses un petit peu plus loin, des fois, tu te rends compte qu'en fin de compte, quand tu jases avec celui qui a émis sa thèse, peut-être qu'on est encore dans l'hypothèse plus que dans quelque chose de démontré. Puis c'est pour ça que je dis, lorsque vous êtes confronté avec des questions, c'est vraiment important d'avoir plutôt une attitude de dire « Ah, c'est intéressant, je vais aller lire là-dessus. » Parce qu'il y a aussi tout le phénomène de la vulgarisation qui est extrêmement fort. Le scientifique publie son article, d'accord? Et puis, ça, c'est digéré, puis digéré, puis digéré. Puis, par le temps que c'est présenté à Découverte, d'accord, pour donner un exemple probant, par le temps où c'est présenté à Découverte, bien, souvent, le scientifique ne serait même pas d'accord avec ce qui a été affirmé là, d'accord? On est rendu dans la simple, c'est simpliste ce qui est fait. Et c'est souvent le cas. Je vous le dis, c'est souvent le cas. Quand vous prenez le temps d'aller lire les auteurs eux-mêmes, vous vous rendez compte que c'est des hypothèses qu'ils sont en train d'émettre, puis c'est pas tout clair, c'est pas tout affirmé. Il se produit un petit peu le même phénomène que celui que je donnais, je m'excuse, faut vraiment que je termine, mais tout à l'heure, j'ai donné l'exemple suivant. Si je m'assoyais avec quelqu'un qui est catholique, puis je lui disais, écoute, il y a la Bible, puis il y a ce que les papes ont affirmé. D'après toi, c'est où que se situe la vérité? Plusieurs d'entre eux diraient, c'est la Bible. D'accord? Si je pose la question comme ça, c'est comme pas attaché à leur expérience. Mais si après ça, je m'en vais ailleurs, puis je dis, tu sais, quand tu manges le petit morceau de pain, là, il n'y a pas de magie là-dedans, ça te purifie de rien pantoute, là. Là, la personne, ça se peut qu'elle dise, ah non, 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 tu ne comprends pas, je l'ai vécu. J'entends, mon père me parle. Tu comprends? Fait que, entre, si je m'en vais à la source, puis je les confronte avec les idées pures, là, puis leur expérience, il y a comme tout un processus d'intégration qui fait que ça s'est rendu une vérité. C'est la même chose avec certaines affirmations scientifiques. Quand tu prends le temps d'aller lire vraiment les livres des chercheurs, les écrits, tout ça, tu réalises que, oh, ils ne sont pas sûrs de rien encore. Ils font juste, ça va dans ce sens-là. Puis à un certain moment donné, ils se prennent un petit peu au sérieux là-dedans aussi. Il faut qu'ils publient, hein? Il faut qu'ils publient absolument. On a vu toutes sortes de scandales dans les dernières années avec des publications. Il faut qu'ils publient s'ils veulent que l'argent rentre. Et donc, il y a un jeu aussi dans ça. Je ne suis pas en train de dénigrer la science. D'accord? La science, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les gens qui font la science, ce sont des pécheurs. Ça va? Donc, on croit dans la science, il n'y a pas de problème. Je crois que la révélation générale ne contredit pas Dieu d'aucune manière, parce que je crois que c'est Dieu qui l'a créé. Je crois que ceux qui font la science sont des pécheurs. Et donc, des fois, il faut donner le temps pour pouvoir tester vraiment les affirmations. C'est bon? On va arrêter avec un mot de prière. Je m'excuse, j'ai dépassé un petit peu ce matin. Seigneur, merci pour tes bontés. Merci pour ta parole. Seigneur, dire que ta parole est l'autorité finale dans nos vies, c'est un acte de foi. C'est un pas de foi, c'est vrai. L'expérimenter, le voir, sonder tes Écritures, c'est déjà faire un pas de plus, Seigneur. Mais apprendre au quotidien, devant les troubles de la vie, devant les dilemmes de la vie, devant les choix difficiles à prendre, devant les angoisses que la vie peut nous apporter, apprendre au quotidien à nous tourner vers ta parole pour laisser ta parole venir instruire notre intelligence, notre cœur, nos sentiments, nos décisions. Ça, c'est tout un pas, Seigneur. Et je te prie, par ta grâce, que dans cette assemblée, ce soit entièrement, complètement, que nous cherchions à honorer ta parole, Seigneur, non seulement dans ce qu'on déclare comme théologie, comme doctrine, mais aussi dans notre quotidien, dans notre expérience, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.